que nous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Donc Hassan Ekwissen, c'est un historien et un conférencier qui est reconnu en France. Donc il sillonne la France par-delà les mosquées pour faire des conférences. Donc il est connu pour son dévouement et sa da'wa dans l'islam. Donc ce soir, le thème de la conférence, c'est le rôle de la mosquée. Donc dans la mosquée, il y a différents rôles à tenir. Donc l'éducation, l'instruction, l'unicité et plein d'autres sujets, inshallah, que le cheikh Hassan Ekwissen va développer ce soir. Donc il y aura la conférence. Après la conférence, nous allons reprendre Salat Tarawih, inshallah. Et après Salat Tarawih, il y aura un qiyam, inshallah, avec des questions-réponses pour ceux qui auront des questions à poser au professeur. Marhaba, il est là toute la nuit. Et profitez-en, inshallah. Barakallahu fikoum. Bref, barakallahu fik, cheikh, d'avoir répondu à notre invitation. Jazakallahu khair.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Ahzab, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il dit dans la sourate La Lumière, في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. Deux fois dans ces deux versets, Dieu parle d'une catégorie de croyants et les qualifie de rijal, d'hommes, au sens noble du terme, c'est-à-dire des gens de parole qui, lorsqu'ils s'engagent, vont jusqu'au bout de leur engagement, quel que soit le prix, c'est-à-dire même si ça doit leur coûter la vie. La preuve, certains sont tombés martyrs, d'autres attendent leur tour. Et à aucun moment, ils n'ont pensé à faire marche arrière, à retourner leur veste. Dans l'autre verset, Dieu nous dit, des mosquées qui ont vu le jour, qui ont été érigées, construites, par la volonté et la grâce de Dieu, et ces mosquées, si elles ont vu le jour, c'est parce qu'il y a dans ces mosquées des hommes à nouveau. Alors bien entendu, quand on dit des hommes, c'est dire des hommes et des femmes. On est d'accord, hein? Donc des hommes, au sens noble du terme, qui ont des paroles, qui ont une parole, et qui s'engagent pour la noble cause. Ils ne sont pas détournés. La tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillah. Rien ne les détourne de leur objectif noble, qui est d'adorer leur Seigneur dans ces mosquées qui ont vu le jour. Ainsi, il y a deux types de croyants en fait. Il y a le croyant lambda qui se contente du minimum. Et vous avez un autre type de croyant qui lui vise les hautes sphères paradisiaques. Il ne veut pas du premier paradis ou du deuxième. Il veut le top. Ainsi, il s'adonne sans compter à sa religion, car pour lui c'est l'essentiel. Il sait que tout est vain, futile. La vie est passagère. Le plus important c'est l'au-delà, parce que l'au-delà est éternel. Alors vous savez ce que ces hommes et ces femmes font. Ils font des efforts sans compter pour la gloire de la religion. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Je le dis à nouveau, notre problème en tant que musulmans francophones, français et même arabophones, car il ne suffit pas de comprendre l'arabe pour comprendre le Coran. Notre problème, c'est qu'on écoute le Coran, et c'est ce qui s'est passé pendant un mois durant les prières nocturnes du Ramadan, les Tarawih, mais malheureusement, on ne comprend pas. Dieu nous a parlé via la récitation du Coran pendant un mois, et on n'a pas capté ce qu'il nous a dit. Parce que entre Dieu et nous, bah écoutez, il y a une machine, il y a un petit appareil qui brouille les ondes, l'ignorance. Ainsi, Dieu parle et on ne sait pas ce qu'il nous dit. Il nous interpelle et on ne l'entend pas, on ne le comprend pas. C'est problématique, non, vous ne trouvez pas? Imaginez-vous, quelqu'un vous passe un coup de fil et il vous parle dans une langue que vous ne comprenez pas. Vous faites quoi? Vous lui dites, arrêtez de parler, parle en français, je ne comprends pas. Et si le mec ne réagit pas et continue, vous raccrochez. C'est une perte de temps, n'est-ce pas? Mais nous, on est tellement polis et tellement pieux qu'on reste dans la prière, même si on ne comprend pas. Ce qui est bien. Hein? Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas... Il faut avancer. Allah, il faut avancer. L'objectif du Coran, ce n'est pas d'être lu et récité uniquement. La lecture, c'est un moyen pour atteindre un objectif. La récitation du Coran, c'est un moyen pour atteindre un objectif. C'est comprendre le message divin pour réagir à la lumière des ordres divins. C'est-à-dire, Dieu nous parle et il nous dit « faites et ne faites pas ». Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, dit « lorsque vous entendez « Ya ayyuhalladina amanu » Ô vous qui croyez, alors tendez l'oreille et dites « Labbaik ya Allah, oui Seigneur, car Dieu vous a interpellé, vous êtes des croyants. » Répondez en disant « Oui, je t'écoute, dis-moi ce que tu attends de moi Seigneur. » Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud dit ça? Il dit « Car si Dieu vous interpelle, c'est soit pour vous indiquer un bien, afin que vous le fassiez pour votre bonheur sur terre et dans l'au-delà, ou c'est soit pour vous indiquer le mal, afin que vous en détourniez pour votre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. » Car tout est positif dans le message divin. « Am hasibtum an tadkhulu al-jannata » C'est ce que ça veut dire. Vous rêvez. Si vous croyez que vous allez entrer au paradis gratuitement. Am hasibtum. Allez, vous pensez? Non, 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 vous pensez mal. Le paradis n'est pas gratuit. Il faut payer son entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ala inna sil'atallahi ghaliya. La marchandise de Dieu coûte cher. La marchandise de Dieu, c'est le paradis. Dieu nous dit, vous rêvez si vous croyez que vous allez aller au paradis sans payer le prix. Seigneur, dis-moi c'est quoi le prix? Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Attendez, paradis, vous savez ce que c'est? S'il n'y avait qu'au paradis, que l'éternité, toujours, ça suffirait comme plaisir, tu ne meurs plus. Mais c'est pas tu ne meurs pas, c'est tu ne meurs pas et tu vis le plaisir. C'est quoi le prix? وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. Le prix, c'est vous devez faire des efforts. Ouais, vous devez faire des sacrifices. إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. Regardez un autre verset. C'est un troc, un business, un commerce. Dieu vend et nous nous achetons. Qu'est-ce que Dieu vend? Le paradis. Quel est le prix? Deux choses. Ton corps, ton âme, toi-même, ta personne, ton temps Et deuxièmement, ton fric, ton argent, ce que tu aimes. Voilà. C'est la monnaie pour pouvoir acheter cette marchandise divine qui s'appelle le paradis. Tu dois donner de ta personne et tu dois donner de ton argent. Et là, tu pourras avoir ton billet, ton laissez-passer pour entrer au paradis. Ce n'est pas gratuit. Voilà, c'est ça que Dieu dit dans le Coran. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Regardez à nouveau, tijara. Traduisez tijara. Un commerce. Est-ce que vous voulez que je vous indique un business qui va vous préserver des flammes de l'enfer? Bien sûr, Seigneur, c'est tout ce qu'on veut, ne pas souffrir. Alors, ce troc, ce business, c'est la croyance. Tu crois, c'est ça? C'est suffisant? Pas du tout. Pas du tout. Tu pries? Tu crois que c'est suffisant? Pas du tout. Le verset parle de wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Et vous devez faire un sacrifice de vos propres personnes et donner ce que vous aimez, c'est-à-dire le fric. Parce que le fric, c'est ce qui nous ouvre la porte du bien-être et du bonheur sur terre. Donc tu dois sacrifier une partie de ton bien-être et de ton bonheur sur terre pour pouvoir jouir éternellement dans l'au-delà. Il n'y a rien de gratuit. Vous rêvez. Très bien. Primo. Retenez. Chapeau, bravo. Vous êtes trop fort. Vous êtes magnifiques. Vous êtes des croyants sincères et pieux. Parce que votre sincérité, votre piété, c'est un arbre qui donne des fruits et les fruits, nous les voyons. Alhamdoulillah, ce bâtiment, désormais, est entre vos mains. Vous avez réussi à quoi ? À l'acquérir. Chapeau. Ça fait plaisir. Désormais, vous êtes entré dans l'histoire de l'islam de France. Car cette mosquée restera, inshallah, jusqu'à la fin des temps. Et n'ayez crainte, les anges ont noté tous ceux qui ont participé à ce projet. En donnant de leur temps, de leur personne, en donnant de leur argent, en donnant leur idée, en faisant des invocations, en encourageant. Tout le monde a participé à un degré, à un niveau. C'est beau, c'est magnifique, c'est super. Et wallah, c'est ce qui se passe en France. Ça va faire une quinzaine d'années, les mosquées poussent partout en France. C'est impressionnant, la frénésie. C'est une frénésie. On n'a jamais vu ça. Si bien que Shaitan flippe. Allez sur les réseaux, allez sur les sites, allez sur les sites des racistes islamophobes qui détestent l'islam et les mosquées. Allez voir ce qu'ils disent. Il devient une fou, il dit c'est pas possible. Il y a des mosquées qui poussent dans toutes les villes de France. Et ils ont raison. C'est vrai, il y a des mosquées qui poussent, mais ils n'ont pas raison d'avoir de la haine. Hein. Parce que c'est un droit. Je suis musulman, je veux pratiquer ma religion comme le chrétien, comme le juif, comme l'athée, comme le bouddhiste, comme l'homosexuel. Pratiquent leur religion, ils ont le droit. Mais non. Lui, il n'accepte pas, il ne supporte pas l'existence du musulman en France, de surcroît qu'il pratique sa religion. C'est son affaire, c'est son problème, vive la liberté, vive la démocratie. Le constat, il est clair et net. Il y a 2 ans déjà, le ministère de l'Intérieur et du culte. Hein, c'est-à-dire le ministre qui s'occupe des religions, c'est le ministre de la police. Hein, d'accord ? Le ministère de l'Intérieur a sorti les chiffres. Vous savez ce qu'il a dit au 1er janvier 2012 ? Il a dit qu'actuellement, au 1er janvier 2012, en France, il y a 150 projets de mosquées. C'est-à-dire 150 permis de construire qui ont déjà été octroyés ou en passe d'être octroyés. 150 mosquées qui vont voir le jour. Certaines sont déjà bien avancées. Le gros œuvre est fait, d'autres dans les débuts. Ça, c'est il y a 2 ans. Hein. Mais depuis 2 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Hein. Il doit en avoir 200 au moins aujourd'hui. Certaines sont terminées, d'autres pas encore. Et c'est pas suffisant. Vous savez pourquoi c'est pas suffisant? Parce que nous sommes quand même à peu près 10 millions de musulmans en France. Vous entendez ? 10 millions de musulmans en France. On n'a pas de vrais chiffres, mais c'est plus ça, parce que les 5-6 millions, ça fait 30 ans hein, qu'ils disent il y a 5-6 millions. En vérité, oui, il doit y avoir 10, peut-être un peu plus, un peu moins, mais en tout cas, la population musulmane est nombreuse. Et les lieux de culte ne suffisent pas pour répondre eux, aux besoins du rituel, de la pratique. La preuve, regardez, Hawa, les 7 mosquées, il y a 30 ans, elles n'existaient pas. Il y a des personnes, il y a des gens qui, à un moment donné, se sont dit, il nous faut une mosquée pour prier. Ils étaient combien au début ? Ils étaient 5, 10, 20, 30. Et quand ils ont commencé avec 30 mètres carrés, 50 mètres carrés. Et regardez le résultat maintenant. 4 niveaux, un sous-sol, un projet extraordinaire. La mosquée est pleine. Et je vous promets que dans 5 ans, cette salle de prière ne sera pas suffisante. Vous entendez ? Car, écoutez bien, je suis témoin. Partout en France, quand les musulmans ont construit une mosquée, vous savez ce qui s'est passé ? 6 mois plus tard, elle était trop petite. Les projets de mosquée qui ont vu le jour sont déjà obsolètes, trop petits. Les gens prient dehors. Mosquée neuve, elle vient d'être inaugurée il y a 6 mois. Astaghfirullah. Non, j'étais dans le Jura. L'année dernière, au mois de Ramadan, ils ont inauguré la mosquée le premier jour du Ramadan. Le lendemain soir, les gens priaient dehors. Et ils se sont plantés, ils ont fait une mosquée trop petite. Astaghfirullah. Ils ont fait un ijtihad, mais ils ne s'attendaient pas à quoi ? En fait, ils viennent d'où tous ces musulmans ? Il suffit que tu fasses une mosquée, et subhanallah, ils sortent on ne sait où. C'est incroyable. Tu dis non, c'est trop grand, on n'est pas nombreux. 15 jours, 1 mois, 2 mois plus tard, la mosquée est pleine. Allahu Akbar, cette communauté est vivante. Vous entendez ? Elle se multiplie à une vitesse incroyable. Donc chapeau, wallah, vous êtes trop fort. Jazakum Allahu anil islami khayran. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous avez fait pour l'islam. Parce que quand vous faites une mosquée, ce n'est pas pour vous. Hein. C'est pour vous et pour les générations à venir. C'est pour eux la pérennité de l'islam. L'islam ne peut exister et durer s'il n'y a pas de mosquée. Donc bravo. Qu'Allah vous bénisse et vous récompense. 1000 fois bravo. Et qu'Allah récompense 1000 fois les responsables qui ont porté le fardeau de la responsabilité. Qui y ont cru alors que certains n'y croyaient pas. Et qui se sont donnés, se sont sacrifiés. Et ils continuent à se sacrifier. Rijalun, des hommes et des femmes convaincus. Est-ce que vous savez que, il y a 15 jours, j'étais dans une mosquée dans la banlieue parisienne. Le frère responsable de la mosquée m'a dit, quand j'ai signé avec la société qui allait faire le gros œuvre, il y avait dans le compte de la mosquée 800 000 euros. Ça fait 15 ans qu'ils ont le projet. Alhamdulillah, Ramadan de l'année dernière, premier coup de pelle, ils ont fait le sous-sol. J'ai prié, j'ai fait une conférence samedi dernier dans cette mosquée, le gros œuvre est terminé. Le frère Salim m'a dit, quand j'ai signé, l'année dernière il y avait 800 000 euros, alors que j'ai signé un contrat de 2,5 millions d'euros. Vous entendez ? Il a signé un contrat, 2,5 millions d'euros, et il n'a que 800 000 dans les caisses. Alors vous dites quoi de ce frère ? Il est fou ou il n'est pas fou ? Il est fou ? Non ? Allez, pour lui, il ne l'aurait pas fait, vous êtes bien d'accord ? Pour sa maison, pour son projet personnel. Vous allez le faire, vous ? Vous allez signer alors que vous n'avez pas l'argent ? Mais regardez ce que le frère a dit. Il a dit, j'ai signé parce que c'est pas ma maison, c'est la maison de Dieu. Et Allah s'en occupe, sa maison. Moi, je suis juste un serviteur, un esclave. Franchement, vous ne trouvez pas que c'est une foi extraordinaire ? Vous ne trouvez pas qu'il a confiance en Dieu ? Le gros œuvre est fini dans la mosquée. D'où sont venus les 2 millions d'euros qui manquent? Vous le savez d'où ils viennent? Ouais. Vous le savez, hein? Non, vous ne le savez pas? J'étais dans une mosquée. Je ne cite pas les noms parce que peut-être que certains frères ne veulent pas faire trop de pub. J'étais dans une mosquée. Vous savez ce qu'ils ont fait, les frères? Très intelligents. Ils ont invité le maire de la ville avec des responsables politiques à la mosquée le jour où ils allaient faire la collecte, écoutez bien, pour ramasser de l'argent pour le projet de la mosquée. D'un air de dire, venez, vous allez voir l'argent d'où il vient. Allez, bismillah, on y va. Les 1000 euros, les mains qui se lèvent, 1000 euros, 1000 euros, 500 euros. Et dans la soirée, le maire a assisté à une scène et il a été choqué. Il a dit, c'est pas possible. C'est impensable et incroyable. Vous savez qu'on n'est pas des millionnaires. Hein? On n'est pas des hauts fonctionnaires de l'État. On n'est pas des cadres. On n'est pas des professions libérales. La plupart parmi nous, on fait partie de la classe moyenne, voire nos parents sont des retraités. Des retraités qui ne touchent même pas 1000 euros. Wallah, les frères ont réussi en une soirée à rassembler 170 000 euros. Le mec est tombé par terre. Il a dit, vous avez vu la communauté de quoi elle est capable? Et c'est vrai, wallah, on a une communauté extraordinaire. L'umma fait khair. Alors les mosquées poussent et voient le jour partout en France. C'est magnifique, c'est beau, c'est super. On est d'accord? Fait bouillotine, adinallahu. C'est ce que ça veut dire? C'est Dieu qui a donné le feu vert pour que la mosquée voie le jour. Si Dieu ne veut pas qu'il ait une maison dans ce quartier, la maison de Dieu ne verra pas le jour. Le contraire, si Dieu veut qu'il y ait une mosquée, le monde entier peut se coaliser contre le projet de la mosquée verra le jour. Et wallah, il y a des frères qui m'ont raconté des histoires, écoutez bien, le maire de la ville a dit, tant que je suis vivant et que je suis maire, vous n'aurez pas de mosquée. Vous savez ce qu'ils lui ont dit, les responsables de l'association? Il lui a dit, on aura une mosquée, malgré vous, monsieur le maire, et on se donne rendez-vous aux élections. Les élections sont arrivées, ils l'ont viré de son poste. Les musulmans ont fait une campagne électorale contre le maire islamophobe, d'accord? Être contre une mosquée, c'est être contre l'islam. Non, ce maire, il est contre la loi française. Contre la constitution française qui nous donne le droit d'avoir une mosquée. Ils l'ont viré. Vous entendez, ils l'ont viré, hein? Il a perdu les élections. Ils ont voté pour son opposant. Et dans cette ville, maintenant, dans la région parisienne, ils ont deux mosquées. Ils ont deux mosquées. Et vous savez ce qu'a fait le maire? L'ancien, là, l'islamophobe. Écoutez bien le culot. Vous savez ce qu'il a fait? Avant les élections, il y a 4 mois, il y a 3 mois, il est venu voir les responsables de la mosquée. Et il leur a dit, écoutez, vous savez, tout le monde fait des erreurs, il n'y a pas de problème, on peut travailler ensemble. Je suis prêt à vous donner ceci, cela. Je me présente, est-ce que vous êtes prêts à me soutenir? Vous entendez? Il a compris que s'il veut sa place, il doit dealer avec eux. La mosquée, il doit dire avec les musulmans, les islamistes, intégristes, fondamentalistes, terroristes et salafistes qu'il traitait il y a encore 6 ans. C'est beau ou c'est pas beau? C'est magnifique, non, vous trouvez pas? T'as pas besoin de brûler de voitures, hein? T'as pas besoin de brûler des poubelles, t'as pas besoin de crier, d'hurler, d'insulter. Juste, tu fais quoi? Tu penses, tu réfléchis et t'apportes les vraies solutions aux problèmes. Vous savez ce que lui ont dit les responsables de la mosquée? Ils ont dit, on n'est pas des traîtres. Ouais, celui pour qui on a voté, il a été correct avec nous, on sera correct avec lui. C'est beau, c'est pas beau? Non, c'est plus que beau, c'est magnifique. L'honnêteté jusqu'au bout. Très bien. Si vous en voulez encore d'autres histoires sur des mosquées en France, tout à l'heure. Hein, on peut en parler jusque le Fajr, hein. J'en ai des dizaines et des dizaines. Mais je m'arrête ici. Vous n'avez pas fini, vous, hein? C'est qu'un début. En rentrant, j'ai vu les plans. C'est ça? Donc ça nécessite encore quoi? Ça nécessite encore des efforts et des sacrifices de votre part. Et en plus, si j'ai cru comprendre ce qu'on m'a dit, ce n'est pas un achat, c'est un bail avec les pouvoirs publics, n'est-ce pas? Donc vous n'êtes pas propriétaire. Ok, c'est une étape, c'est une phase. On est d'accord? Mais c'est quoi l'objectif? C'est de devenir propriétaire tôt ou tard. Pas maintenant, il y a une priorité, les travaux, mais vous devez avoir à l'esprit que dans 6 ans ou 12 ans, le local vous appartienne. Attention, hein, c'est la maison de Dieu, on ne joue pas avec. Ce n'est pas aller mosquer pendant 20 ans et après elle devient autre chose. Non, 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 non. On ne rigole pas avec la maison d'Allah. On ne l'abandonne pas, on ne la lâche pas. Les savants sont clairs, hein. Alors écoutez bien, Allah ybarak fikoum. Vous avez réussi à avoir ce que vous avez eu grâce aux sacrifices, aux efforts, grâce à votre intelligence, à votre clairvoyance, mais vous n'avez fait que la moitié du chemin. Il reste l'autre moitié. L'autre moitié nécessite à nouveau des efforts et à nouveau de la clairvoyance et de l'intelligence et de la stratégie. Et je vous parle à vous les jeunes, musulmans, français. Vous entendez? Plus vous serez citoyen et engagé, plus vous assumerez votre citoyenneté, plus vous pourrez servir la communauté musulmane et la communauté nationale. Vous me comprenez? Ça va? Le message est clair? Non, il n'est pas clair? Il est clair? Non, s'il n'est pas clair, dites-le, je vais... Non, pour certains, il n'est pas clair, mais ils n'osent pas le dire. Bon, je vais être un peu plus clair. Préparez les élections. Dans 6 ans. Ça va, c'est clair maintenant? Préparez les élections. Commencez tout de suite à business, à dealer. Ok? Comme ça, Inch'Allah, dans 6 ans, dans 12 ans, ce bâtiment appartient à l'association des musulmans de... C'est clair? Très bien. Deuxième effort, il y a des travaux à faire. Ça implique obligatoirement un investissement physique et financier. Physique, ça veut dire quoi un investissement physique? Vous remarquerez que je ne parle pas en arabe, hein. Vous savez pourquoi? Parce que nos parents ont déjà travaillé. Vous êtes d'accord? Donc, starhu, Allah ybarak fikoum. Khlouni nahdar ma'a ouladkoum, bach yehzou tqal, rah zitou tqal ntouma, kama yanbaghi, Allah ybarak fikoum. خلوني نهضر شويه مع ولادكم باش يوصلوا العمل ديالكم راه فتحتوا الطريق خصهم يدخلوا في هذا الطريق ويكملوا المشوار. Alors regardez, nos parents sont des bâtisseurs, des constructeurs. Vous êtes d'accord? Toutes les mosquées de France à 99% ont été construites et bâties par nos parents. Vous devez intégrer cette mosquée et vous impliquer avec vos compétences. Parce que vous avez des compétences. Vous êtes capable de faire économiser à l'association des milliers d'euros parce que, avec les outils que nous avons aujourd'hui et le net, ouais, nos parents ils veulent une fenêtre, ils vont aller à le Roi Merlin, ils vont aller à Saint-Image, je ne sais pas quel magasin vous avez ici dans l'Est. Et ils vont jeter la fenêtre au prix. Alors que vous, vous êtes capable, avec Internet, hein, faire jouer la concurrence, peut-être acheter la même fenêtre d'une qualité meilleure en Pologne, ouais, en Espagne, en Portugal, au Portugal, au prix ici qu'en France, vous en achetez 3. Parce que vous avez cette capacité. Vous êtes capable de vous asseoir avec une société et de négocier parce que vous maîtrisez le verbe. Vous connaissez la loi. Mieux, vous êtes capable de faire des dossiers de subvention et de réclamer de l'argent aux différents organismes étatiques qui financent, non pas les lieux de culte, laïcité oblige, mais les associations culturelles. Ainsi, vous créez une association cultuelle qui gère la mosquée et le reste
doit être géré par une association culturelle, faire de l'enseignement, de l'art, des activités culturelles, et là vous avez le droit aux différentes aides. Et ces aides-là, n'ayez crainte, elles sont le fruit de votre citoyenneté. Ce sont nos impôts. Hein. Croyez pas que quand vous allez recevoir une aide, c'est de l'argent qui vient de Mars. Ce sont nos impôts. Et je vois pas pourquoi des milliers d'associations en France font des demandes et ont des aides conséquentes et nous non. Alors que nous sommes des citoyens. Allah ybarak fikoum, notre pays est juste. Il y a les lois sont faites pour que tout le monde puisse jouir des droits fondamentaux et le droit d'avoir un lieu où on se retrouve pour éduquer nos enfants, pour échanger. Il existe, il est garanti par la Constitution et l'État met les moyens. Et en plus, vous êtes en Alsace-Lorraine, encore avec un statut particulier. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal que les imams ne reçoivent pas de salaire, alors que les curés, les pasteurs, les rabbins, ici en Alsace-Lorraine, sont des salariés de l'État? Vous trouvez ça normal? Le salaire de l'imam va nous coûter 2-3 000 euros. Ce sont 2-3 000 euros qu'on peut économiser et les investir dans autre chose. Si, en tant que jeune français, musulman, qui connaissez vos droits, vous vous impliquez dans la gestion de la mosquée et le développement de la mosquée, croyez-moi que vous allez faire économiser beaucoup d'argent, vous allez faire gagner du temps à l'association et vous serez beaucoup plus efficace. Ne soyez pas des spectateurs, Allah ybarak fikoum. On ne veut pas uniquement que vous participiez au projet avec 500 euros, avec 1000 euros. Nous voulons que vous fassiez un effort avec vos personnes, vous donniez de vous-même, de votre savoir-faire, de vos compétences. Il y a peut-être parmi vous 2-3 personnes qui ont bac plus 5 en quoi? En finance. Qui sont des comptables. Comment se fait-il que l'association a un trésorier qui sait ni lire ni écrire, le pauvre qui se bat pour essayer de faire son travail de manière parfaite, alors qu'il y a parmi nous dans la mosquée des gens qui ont fait des études? C'est pas normal. Nos parents sont fatigués. Nos parents ont donné le maximum. À nous de les épauler pour qu'il y ait une transmission de la responsabilité à des gens qui seront plus efficaces parce que justement plus compétents dans leur domaine. Engagez-vous, impliquez-vous. Et à nouveau, je parle aux hommes et aux femmes. Vous entendez? Que les hommes s'impliquent et que les femmes s'impliquent pour que le projet avance le plus vite. Deuxièmement, l'argent c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas d'argent, on ne peut pas avancer. Vous devez mettre la main à la pâte et faire des sacrifices. Surtout dans les débuts. Ammar ibn Yasir. Ça vous dit quelque chose, Ammar? Vous avez déjà entendu parler de lui? Il fait partie des premiers convertis. Sa mère et son père ont été les premiers à avoir été assassinés. Soumaïa et Yasir. Ammar, c'est celui qui, sous la torture, a dû renier Dieu et son prophète. Peiné, il dit, ô messager de Dieu, j'ai fait ça à contre-cœur. Je ne pouvais plus supporter la torture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire, ya Ammar, s'il recommence, recommence. Allez, s'il te torture à nouveau pour que tu renies ta religion, renie-la avec ta langue, mais ton cœur est en paix. Vous avez vu, subhanallah, comment notre religion est souple, réaliste et pragmatique. Ammar ibn Yasir, lors de la construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, construction à laquelle tout le monde a participé. Vous entendez? Le prophète lui-même a participé. Bien sûr, le prophète ne donnait pas des ordres à ses hommes et les regardait. Il était le premier à mettre la main à la pâte et à montrer l'exemple. Le prophète va observer Ammar et vous savez ce qu'il voit ? Il voit que Ammar porte deux fois plus que les autres. Et si les autres amènent un parpaing, Ammar en porte deux. Vous voyez comment il travaille avec quoi ? Avec abnégation. C'est-à-dire, Ammar se défonce deux fois plus que les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'interpeller. Il va s'approcher de lui. Et le prophète va lui exprimer son amour. Il va lui parler avec tendresse. Il va lui frotter sa chevelure, sa tête. Il le caresse. Et à un moment donné, il lui dit « Waiha Ammar, taqtuluka al-fi'atul al-bariya. » Pauvre Ammar, il va être assassiné par des musulmans. C'est le comble. Un homme qui se donne et qui se sacrifie autant, qui fait deux fois plus que les autres, vous entendez ? Va être sacrifié sur l'autel de la discorde et de la dispute. Pauvre Ammar. On doit tous être des Ammar. Si les gens donnent, donnez deux fois plus que les autres. وَفِدَلِكَ فَلِيَتَنَفَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Faites-vous la compétition dans le bien. Vous entendez ? S'il y a quelqu'un qui a donné 1000 euros, donnez 2000 euros. Oui, vous savez pourquoi ? Pour être le meilleur, le premier. C'est comme ça que le musulman doit penser. Il doit devancer les autres. Vous allez me dire, ouais, mais c'est lourd, c'est dur. Attends, il faudrait savoir, on l'a dit au début. Tu veux quoi ? Tu veux le premier paradis ou le dernier ? Allez, qui parmi vous ne veut pas être au paradis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Vous allez tous dire, oui, je le veux. Oui, tu le veux, mais c'est parce que tu le veux que tu l'auras. Il faut payer le prix. Et c'est possible si on veut. Qui parmi nous est prêt à s'endetter pour la mosquée ? Voilà, ça c'est la question de fond. Pour nos projets personnels, on est prêt à s'endetter. Il te faut une voiture. Elle coûte 10 000 euros. T'as 3000 euros. Tu vas pas y trouver les 7000 euros. Tu vas tout faire pour les avoir et tu vas faire tout pour rembourser. Et tu vas réussir à rembourser. C'est bon, oui ou non ? Et pourquoi est-ce qu'on ne s'endetterait pas à titre personnel pour la mosquée ? Ils ne sont pas égaux. Ils ne sont pas égaux. Qui ça ? Ceux qui donnent alors qu'ils ont, et ceux qui donnent alors qu'ils n'ont pas. Ils ne sont pas égaux. Ceux qui se sacrifient pour donner ont plus de valeur aux yeux de Dieu. Ce qui est logique, non ? Sabaqa dirhamun mi'ata dirham. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un euro a plus de valeur aux yeux de Dieu que 100 euros. Parce que tu as 1000 euros, tu donnes 100 euros. C'est un dixième. Tu as 2 euros, tu donnes 1 euro. C'est la moitié. Donc tu as plus de valeur aux yeux de Dieu. Vous avez compris ? Écoutez cette histoire. Ça vous dit quelque chose, Istanbul ? La Turquie. Avant, elle s'appelait Constantinople, la ville de Constantin. 1453, Mohammed el-Fatih fait la conquête de Constantinople et il change son nom, il l'appelle Istanbul. Vous entendez ? À Istanbul, aujourd'hui, il y a un quartier qui s'appelle le quartier Fetih. C'est comme ça que les Turcs disent, Fetih. C'est-à-dire le quartier de el-Fatih. Le conquérant, Mohammed el-Fatih. Ça va ? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Mohammed el-Fatih ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et dans le Musnad de l'imam Ahmad que Constantinople va être conquise. Et l'armée qui fera cette conquête, c'est une super armée. Et le chef de l'armée qui fera la conquête est un super musulman. Et c'est qui ? Celui qui fera la conquête, c'est Mohammed el-Fatih à l'âge de 22 ans. 1400, 53 le 29 mai. Vous allez à Istanbul, il y a un quartier dans le nord ouest d'Istanbul, dans la partie européenne, qui s'appelle le quartier Fatih, de Mohamed el-Fatih. D'ailleurs, c'est là où se trouve la mosquée que Mohamed el-Fatih a fait construire de son vivant. Car les sultans musulmans, ottomans, voulaient tous laisser des traces, athar, des vestiges. Et bien entendu, quelle est la plus belle des choses que tu puisses faire et qui va rester? C'est une mosquée. Donc tous les sultans construisaient une mosquée. Vous allez à Istanbul, vous allez à la mosquée de Bayezid, la mosquée de Mohamed el-Fatih, la mosquée de Suleiman, la mosquée de Salim, et ainsi de suite. Elles ont toutes un nom qui fait référence à un sultan. Très bien. Il y a une mosquée à Istanbul. Vous savez comment elle s'appelle? Un nom bizarre. Elle s'appelle « C'est comme si je t'avais mangé ». Ka'anni akaltuki. C'est comme si je t'avais mangé. C'est comme ça que s'appelle la mosquée. En turc, bien entendu. Hein. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça, la mosquée? Vous êtes prêts? Car un musulman qui se nomme Khayruddin al-Halabi, un musulman, hein, lambda, comme vous et moi, un jour il a une idée. Il a dit, je vais mourir, il faut que je laisse quelque chose qui va me servir après ma mort. Et parmi les choses qui servent après ta mort, c'est quoi? C'est une mosquée dans laquelle les gens vont prier. Et toute personne qui priera dans cette mosquée, tu auras la récompense de la prière de la personne sans que rien ne diminue à sa récompense. C'est clair? Mais il faut de l'argent pour faire une mosquée. Et il veut la construire, lui, tout seul. Donc il faut quoi? Il faut un plan, une stratégie. Khayruddin, il aimait, il avait un penchant pour la pomme, un fruit. Ouais, chacun ses péchés mignons. Regardez ce que va décider Khayruddin de faire. Il sort de chez lui, il va au marché, il s'arrête devant l'étalage des fruits et légumes, il prend la pomme, il la regarde et il lui parle. Il lui dit, tu sais très bien, pomme, que je t'aime bien et que j'aime bien manger des pommes. Mais j'ai décidé à partir d'aujourd'hui de te sacrifier sur l'autel de ma religion. Car j'ai besoin d'argent pour construire ma maison au paradis où je vais manger des pommes. Alors, je vais te remettre dans l'étalage et c'est comme si je t'avais mangé. Il pose la pomme, il rentre chez lui, il prend l'argent avec lequel il devait acheter la pomme, 1 euro, et il met l'argent dans une caisse. Et tous les jours, il va au marché, il prend la pomme, il la regarde, il dit, c'est comme si je t'avais mangé. Il la remet à sa place, il rentre chez lui, il met 1 euro dans une caisse. Et après des années, il a réussi à économiser des milliers d'euros, vous savez comment, hein, en se privant d'un plaisir. Il n'est pas mort de faim, vous êtes bien d'accord, ouais. Allez, un café, c'est pas... Ouais. D'accord, hein, un petit coca, ouais. Un petit kebab, c'est pas vital, n'est-ce pas? Oui, nous on sous-estime les centimes. Dieu met la baraka dans les centimes. Vous entendez? Si tu es sincère, tes petites économies vont, par la grâce de Dieu, se transformer en milliers, en millions d'euros. Les portes du Seigneur sont impénétrables. Et Allah est capable de tout. Sois juste sincère et fais tes preuves. Quand il a économisé l'argent, il a acheté le terrain et il a construit la mosquée et il est mort. Et aujourd'hui, allez à Istanbul, dans le quartier Mohamed el-Fatih, et cherchez cette mosquée et vous allez la trouver, elle existe toujours. Elle s'appelle « C'est comme si je t'avais mangé ». C'est beau ou c'est pas beau? Franchement, c'est puissant? Vous avez vu quand on veut? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Ça donne quoi aujourd'hui en 2014 à Strasbourg, à la Plaine Verte? Ça donne 100, 200, 300, 500 jeunes musulmans qui font le Jumu'ah dans cette mosquée. Vous êtes 500 au moins, non? Plus peut-être. On va le voir lundi, le jour de l'Aïd. Ben, vous savez ce que vous allez faire? Écoutez bien. Vous allez vous engager à faire un prélèvement automatique de 20 euros par mois pour la mosquée. 20 euros. Je parle aux jeunes, hein? Les parents, vous pouvez dormir. Vous êtes fatigués, vous avez assez travaillé. Si on est 500, donner 20 euros par mois, ça fait 10 000 euros par mois. En un an, ça fait 120 000 euros. Il n'y a rien de compliqué. Vous savez ce que c'est 20 euros? 3 kebabs. Vrai ou faux? Par mois. Vous savez ce que c'est 20 euros? Il y a des frères, il va au boulot, il faut son café. 1 euro, c'est ça? S'il n'a pas son café, il n'est pas bien. Yallah, bismillah, fais le jihad contre ton café. C'est ce que c'est une addiction? T'es accro? Allez, fais un jihad. Débarrasse-toi de cette dépendance. Libère-toi. Et l'argent que tu mets tous les jours dans ton café, 1 euro, ça fait 20 euros, tu les mets à la mosquée. Est-ce que tu vas mourir si tu n'as pas bu de café dans ta vie? Dites-moi, tu vas mourir? Tu ne vas pas mourir. On a tous des petites dépenses comme ça pendant le mois qui ne sont pas nécessaires, qu'on pourrait transformer en investissement dans la maison de Dieu. Allah ybarak fikoum les jeunes. Wallah, vous n'arriverez à atteindre vos objectifs que si et seulement si vous êtes sincères et vous faites le jihad contre votre nefs. Parce que ce n'est pas une mosquée qu'on veut. Ce n'est pas une mosquée qu'on veut. La mosquée, elle est là, regardez. C'est pas ça qu'on veut. Et si vous n'aviez pas cette mosquée, vous allez prier dans une autre mosquée. Et s'il n'y a pas de mosquée, vous priez chez vous, votre prière est valable. Vous savez qu'est-ce qu'on veut? On veut une école là-haut. Oui, une école. Une école primaire pour vos enfants. Parce que si vous venez à la mosquée pour prier, écoutez bien, pendant que vous priez à la mosquée, que vous faites des invocations pour que Dieu protège vos femmes et vos enfants, vous savez ce qui se passe pendant que vous faites les du'as à la mosquée? Vos gosses sont à l'école. Et Allahu a'lam ce qu'ils sont en train d'avaler comme pollution intellectuelle et morale. Non, astaghfirullah, je viens de me tromper. C'est pas Allahu a'lam. Nous savons tous ce qu'ils avalent comme pollution intellectuelle et morale. C'est juste qu'on fait la politique de l'autruche. Hein? On fait semblant. Je vous raconte une anecdote. Dernière semaine d'école, mois de juin. Je m'en vais pendant Ramadan chez un frère qui m'invite pour rompre le jeûne. Vous savez ce que m'a dit le frère Taoufir, qu'Allah le bénisse et le protège? Il me dit, j'ai inscrit mes 3 enfants dans l'école privée catholique. Je lui dis, ça fait beaucoup, 3 enfants dans une école privée, c'est 600 euros au moins. Il m'a dit, je suis obligé. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, regarde ce qui s'est passé. Dernière semaine d'école, hein, fin du mois de juin, son fils, le plus grand, qui a 8 ans, rentre de l'école. Et le gosse, il est tout content. Il cherche sa maman. Sa maman est dans la cuisine. Maman, maman, maman! Oui, vous le dites. Regardez ce qu'il va lui dire. Je sais comment on fait un enfant. Sa mère, elle arrête de rire, elle dit, ça veut dire quoi ça? Et son gosse va lui raconter ce qu'il a vu à l'école cet après-midi. Ils ont ramassé les gosses, écoutez bien, et ils leur ont mis une vidéo sur la sexualité de A à Z, 8 ans le gosse. Et il a tout vu, il a raconté à sa mère la vidéo. Il y avait tout ce que vous pouvez vous imaginer. Vous savez la mère, ce qu'elle a fait? Elle n'a pas supporté, elle est tombée KO par terre. Elle dit, c'est pas possible. J'envoie mon gosse à l'école, et au lieu de lui apprendre le français, les mathématiques, la géographie et l'histoire, qu'est-ce qu'ils lui apprennent? À 8 ans, comment faire un gosse? A'oudou billah, on va où? Avec les images et les photos. Wallah, vous n'êtes pas clair. Vous savez, vous, là, qui êtes jeune, là, qui avez des enfants qui ont 2 ans, 5 ans, 8 ans, wallah, vous n'êtes pas clair. Vous allez voir. Nous, il y a 30 ans, c'était dur d'éduquer nos enfants. Vous, maintenant, écoutez bien, c'est impossible que vous les éduquiez. Parce que tout est fait pour que vos enfants soient tout sauf des êtres équilibrés. Et en plus, avec Internet, avec les portables, mais vous êtes cuit, vous êtes mort. Les études sociologiques sont là pour le prouver. Entre 8 et 10 ans, un gosse a tout vu, tout entendu. 12 ans, il passe à l'action. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux qui le disent. Est-ce que vous savez que tous les grands là, Google, YouTube, Bill Gates, vous savez ceux qui sont dans l'Internet, l'informatique, est-ce que vous savez que toutes ces personnes, tous leurs enfants sont dans des écoles privées aux États-Unis à 25 000 euros l'école, l'année, et dans ces écoles, écoutez bien, interdit le portable, le téléphone portable, et interdit les ordinateurs. Vous entendez? Ceux qui vous fabriquent tout ça et qui vous le donnent et qui vous le vendent, leurs gosses n'ont pas le droit, durant toute leur scolarité, d'entrer en contact avec cette technologie destructrice qui tue le cerveau, les neurones, c'est physiologique, et qui tue le cœur et l'esprit des enfants aujourd'hui. Est-ce que vous savez que GTA V, ce jeu satanique, diabolique, qui s'est vendu en 3 mois à 66 millions d'exemplaires dans le monde, 3 mois, il est sorti 3 mois après, 66 millions de personnes l'ont acheté. Est-ce que vous savez que GTA V a été financé totalement par 2 sociétés? Le lobby de l'armement aux États-Unis et le lobby de la pornographie. C'est pas des scoops, hein, ce que je dis. C'est parce que vous lisez pas. Ils le cachent pas. L'armement, les armes et la pornographie. GTA V. Regardez à quoi jouent les jeunes musulmans. C'est pas une mosquée qu'on veut. Allah est décombe les jeunes. Nous voulons une école pour que le matin, vous veniez, vous faites votre prière avec vos enfants et vous partez au travail en laissant vos enfants entre les mains d'une structure qui va éduquer vos enfants et qui va les instruire comme vous voulez. Sinon, vous êtes mort. Et c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Être au travail, suer pour gagner de l'argent pour vos enfants, alors que vos enfants sont entre les mains de structures et de personnes qui sont en train de les vider. De quoi? De toute dimension spirituelle, éthique, morale et intellectuelle. En fait, tu es en train de te fatiguer pour rien. Tu es en train d'engraisser un gosse qui va te bouffer vers 12, 13, 14 ans parce qu'il va se transformer en monstre parce que tu ne l'auras pas éduqué. Regardez, Allahu Akbar, qu'est-ce que vous voulez de plus? Wallah, c'est la cerise sur le gâteau. Regardez, mosquée, l'école, vous avez tout. Vous avez tout. Mais c'est à vous de bosser les jeunes. Attention, hein, ne rêvez pas. L'école primaire est obligatoire. Et une fois que vous avez fini le primaire, vous passez au collège. Et le collège, le lycée. Alhamdoulilah, ils sont protégés, ils sont préservés. Oui. Et c'est ce que font tous ceux qui ont compris. Hein. Les juifs font des écoles privées, les catholiques, les protestants. Il n'y a que nous, les Nassin, on dort. Astaghfirullah, on s'est réveillé quand même. Hein. Il y en a une vingtaine aujourd'hui en France. Une vingtaine. Hein. Et c'est laquelle la meilleure? Oh, allez où? Chez nous. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? La Véroès, chez nous, dans le Nord. La meilleure, la première de France. On a battu tout le monde. Alhamdoulilah. Mais vous savez qu'à Véroès, vous savez pourquoi Véroès a atteint ce niveau? C'est parce que, écoutez bien, écoutez ce qu'a fait le président fondateur du lycée à Véroès. Il a dit aux gens de la mosquée l'Iman, vous avez des gens qui ont la foi, il leur a dit, vous allez cotiser. Je veux tous les mois des virements bancaires, 30 euros, 40, 50 euros. Et les gens ont fait, je crois qu'il y avait 300 personnes, tous les mois, de leur compte au compte de l'association du lycée Averroès, l'argent était viré. C'est incroyable. Et vous savez que ces gens-là n'avaient pas leur enfant au lycée? Ces gens-là n'avaient pas leur gosse? La plupart de ceux qui ont donné l'argent n'ont pas leur enfant. Parce que leur enfant était grand. Mais ils l'ont fait pourquoi, à votre avis? Pour les enfants des autres. Inch'Allah, pour leurs petits-enfants. C'est clair ou c'est pas clair ce que je viens de dire? Donc, l'Aïd, c'est lundi. Cette année... Non, c'est sur lundi. Oh, ouais. On en parlera après si vous voulez. L'Aïd, c'est lundi. Il faut que ce lundi soit un Aïd spécial. Écoutez-moi. Ce lundi, Inch'Allah, il faut que ce soit un Aïd spécial. C'est ce que vous allez faire? Vous allez venir à la mosquée pour prier avec un rib, avec la niya et l'intention de faire des prélèvements.
Tu nous as bien enseigné comment donner notre argent à la mosquée, j'aurais dans la tête. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose sur le rassemblement? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose sur le dîme aujourd'hui? Regardez, ils sont en train d'attendre pour faire des salats tarawih.
Non.
Mon frère, tu nous as appris quoi? Tu leur as enseigné comment dépenser leur argent?
Je peux répondre? T'as posé la question? Ne lui répondez pas. Laissez le frère, il est libre de parler. Le frère est libre de parler. Laissez-le, il a le droit. Non, ya Ikhwan, il faut apprendre à écouter les critiques. Le frère a le droit. Tu m'as posé la question. Coucou. Khalik. Que Dieu te bénisse, Yahri. Hayakallah.
Parce que nous, comme professeurs, on souffre depuis des années et on voit génération après génération, la catastrophe, tout. Alors pourquoi vous avez tant que c'est quoi que vous avez? Je ne peux pas faire une chose tout seul. Le monsieur vient de faire quelque chose de très important, très positif. Dans ce cas, si vous avez attendu, on peut passer maintenant à la prière, s'il vous plaît.
Naam.
Stop, s'il vous plaît, que monsieur.
Ne lui répondez pas. Coucou, regarde-moi, tu m'as posé une question, je t'ai écouté, laisse-moi te répondre. T'es d'accord? Vous êtes d'accord? Allah ybarak fikoum rah. Il ne faut pas être dérangé quand quelqu'un prend la parole et fait une remarque. Le frère, il se met debout, il m'interrompt, il me fait une remarque, je suis content et heureux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a peut-être raison et j'ai tort. J'accepte, ça ne me dérange pas. Elle aime, il faut juste qu'on apprenne à gérer l'échange et la discussion. T'as fait une remarque. T'es d'accord? Bon. On m'a demandé de parler d'un thème. Je suis bête et discipliné. Je me soumets parce que je suis un invité. Les responsables de la mosquée qui m'ont invité m'ont dit, tu vas parler du rôle de la mosquée. Et là, regarde ce que je suis en train de faire. J'ai fait le petit 1, tu étais absent. Le petit 2, tu es arrivé à la moitié. Et je vais passer au petit 3. et au petit 4, j'ai un plan dans ma tête, hein. Le petit 3, je vais parler de ce qu'on doit faire à la mosquée. L'enseignement de la religion à la mosquée, la da'wa à la mosquée. Le petit 4, je vais parler de l'avenir de nos mosquées en France. Si tu es capable de patienter et d'attendre pour écouter la suite, peut-être que ta réponse, j'ai pas fini, je t'ai pas coupé, tu me coupes pas. Peut-être que tu vas trouver réponse à ce que tu as dit. Si tu veux pas attendre, tu es libre. Alhamdulillah, on est en France. Il y a la possibilité que tu t'en ailles et tu fais ce que tu veux de ta vie, tu m'empêches pas de dormir. Deuxièmement, tu interpelles les gens et tu leur dis, est-ce que vous avez appris quelque chose? Très bien. Imagine-toi maintenant, je vais dire aux gens, yallah, le frère, il vous a posé une question, répondez-lui. Et je vais leur dire, levez la main ceux qui, depuis 45 minutes que je parle, ont appris quelque chose. Imagine-toi si la majorité dit oui. Tu diras, alhamdoulilah, très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que toi, dans ta tête, tu n'as rien appris. Parce que, alhamdoulilah, tu sais déjà. Et Allah Ibar, je suis content. Et j'ai envie de te dire, toi, tu ne m'intéresses pas parce que tu sais. Ce qui m'intéresse, c'est ceux qui ne savent pas. Donc, si la majorité te dit, on a appris, tu seras tout ridicule parce que tu auras parlé en leur nom, sans procuration, et tu t'es imaginé des choses alors que ce n'est pas vrai. Donc, laisse-moi finir. Les frères, c'est vous qui allez répondre aux frères. D'accord? Est-ce que, depuis 45 minutes, vous sentez, vous pensez, vous croyez que cette discussion, qui n'est pas finie, hein, elle vous a été utile, vous avez appris des choses, vous pensez que vous allez encore être plus musulman et servir encore plus l'islam. Donc, levez la main ceux qui pensent cela. Regarde, restez la main levée, regarde. C'est bon? Baissez la main. Non, j'ai pas fini. Est-ce que, s'il vous plaît, parmi vous, il y a des gens qui pensent comme le frère que je vous ai fait perdre votre temps? Regarde d'abord, regarde. Non, je t'ai pas donné l'autorisation. Je t'ai pas donné l'autorisation. Ah si, l'adab, mon frère, l'adab. Sinon, on s'en sort pas, l'adab. Donc, personne, laisse-le. Laisse-le. Allah ybarak fikoum. Hana rent fermo. Je vais m'entendre avec le frère, il va s'entendre avec moi sur le minimum. Personne n'a levé la main. Maintenant, ceux qui sont partis, tu sais pas et je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Peut-être qu'effectivement ils sont partis parce qu'ils s'ennuient. Peut-être qu'ils sont partis parce qu'ils apprennent pas. Peut-être qu'ils sont partis parce qu'ils sont fatigués. Peut-être qu'ils sont partis parce qu'ils ont envie de dormir, ils ont rendez-vous. Tu le sais pas. Il faudrait qu'on les ramène et qu'on les questionne. Mais pour l'instant, d'après le sondage qu'on vient de faire, la majorité écrasante des gens est satisfaite et personne ici, sauf toi, est contre. Donc, la justice veut que nous respections la majorité. Ton avis, il vaut ce qu'il vaut. T'as essayé, ça n'a pas marché. Si. Vas-y. Laissez-le. Il dit ce qu'il veut. Laissez-le. Laissez-le. Allah est décomme, laissez-le. Le frère est libre de parler.
Est-ce que pendant les jumu'ah, vous avez appris à faire la prière? Est-ce que certains connaissent les adab de la prière? Est-ce que vous savez faire le wudu? Est-ce que vous savez faire le wudu?
Très bien. Laissez-le. Laissez le frère. Ando, la liberté. C'est bon? Très bien. Ne te répète pas. Allah ybarak fik, tu l'as déjà dit. Stop. Laissez le frère. Très bien. Réponse. Allah ybarak fik, comme Rab Shwiya. Le frère vient de vous dire que vous êtes tous des hypocrites. Taisez-vous, hein, ne réagissez pas. Vous êtes tous des hypocrites. Allez, gueulez comme Saraha. Ouais. Il dit ce qu'il veut, ce qu'il pense, c'est pas parce qu'il l'a dit que vous l'êtes. On est d'accord. Mais moi, je dis au fond de vous-même, faites une dua pour que vous ne soyez pas hypocrites. Parce que Ibn Abi Mulaika a dit, j'ai connu 100 compagnons du prophète, tous, ils avaient peur d'être hypocrites. Donc, on a peur d'être des hypocrites. On est d'accord ? Ce n'est pas une insulte. Elle haine, tu t'es précipité mon frère, tu as taxé tes frères d'hypocrites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit à son frère, ya munafiq, espèce d'hypocrite, de deux choses l'une ou l'autre. Soit les gens le sont, et à ce moment-là, t'es balèze, t'es fort, ou soit ils ne le sont pas, et ça va se retourner contre toi, parce que tu viens de faire un péché grave. Laisse-moi parler. T'as parlé, tu te tais, quand je parle, tu te tais. Tu as dit que c'était des hypocrites, tu n'as pas le droit de le dire. Pourquoi tu n'as pas le droit de le dire ? Parce que tu n'as pas la possibilité d'entrer dans leur cœur. Hadi Wahida. Deuxièmement, ils sont vaccinés majeurs. S'ils veulent dire quelque chose, ben ils vont le dire. La preuve, quand je vais me taire, ils vont prendre la parole. Deuxièmement, mon frère, ça c'est mon opinion, ils savent tous faire le wudu. Ils savent tous faire la prière. Ce ne sont pas des mécréants, ce ne sont pas des gens qui viennent de se convertir il y a 5 minutes. Ce sont des gens qui prient 40 ans pour nos parents, et minimum tous ici, ils ont des mois, des années de prière. Venir à la mosquée pour écouter quelqu'un qui va vous parler de l'wodo, c'est une perte de temps. Parce que c'est stupide et non avenu d'expliquer à l'wodo à quelqu'un qui sait déjà le faire. C'est stupide et non avenu et une perte de temps d'apprendre à quelqu'un à faire la prière alors qu'il sait déjà la faire. Laissez-le, laissez-le. Ouais. Naam. Non, t'as pas encore eu l'autorisation de parler. T'as pas eu l'autorisation de parler, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Naam. Il fait pas la fitna. Il a le droit de parler, de dire ce qu'il veut. Si vous ne voulez plus l'écouter, à ce moment-là, je lui dis tais-toi. On va voter. Est-ce que vous voulez que le frère arrête de poser des questions et je continue, ou vous les laissez parler? Voilà. Le responsable de la mosquée, apparemment, est en train de lui dire tais-toi, je respecte le responsable de la mosquée, parenthèse fermée. D'accord. Je conclue. J'ai pas fini, hein. Le frère m'a coupé, je conclue. Vous me suivez? Mais Allah ibarak fikoum matqal khosh. Ouais. C'est pas grave. Le frère, lui au moins, il me le dit en face. Vous avez vu? Lui au moins, il a une qualité, il me dit en face ce qu'il pense. Il y en a des autres, ils sont pas courageux, ils vont dehors et ils parlent dans mon dos. Ils font des mises en garde. Et je les remercie. Barakallahu fihum, ils me donnent leur hasanat. Vous avez compris? Puisqu'ils font le ghaiba in namima. Jazahumullahu khayran. Il travaille pour moi pendant que je dors. Alhamdulillah. Allah yqoubikoum ou yisbrkoum ala ba'd nas lil qulub dialhum ou l'uqul dialhum rida. Ouais. Ou yakoum, hein? Yakoum tihouf al-fakh. Nous avons besoin de la mosquée et en haut de quoi? Allah ybarak. C'est bon? Walakin, j'ai vu là-bas dans le plan quelque chose qui m'a fait plaisir. Wallah farhat mli chto. Parce que vous avez pris des leçons des erreurs des mosquées qui ont été construites. J'ai vu qu'au dernier étage, vous avez fait des appartements et des studios pour les louer pour qu'il y ait de l'argent pour la mosquée. Ça s'appelle l'waqf, l'investissement. Et là, chapeau, bravo, Allah ybarak. Vous avez tout compris. Car aujourd'hui, beaucoup de musulmans ont construit des mosquées immenses, 6 millions d'euros, vous entendez, hein? Walakin hslou, ils sont coincés maintenant. Vous savez pourquoi ils sont coincés? Parce qu'une mosquée de 6 millions d'euros, il faut combien d'euros par mois pour l'entretenir? 10 000 euros. Et les 10 000 euros, ils ne les ont pas. Donc tous les jours, donner, donner. Alors que le système dans tous les pays musulmans, c'est quoi? J'aime ou le waqf diallo. C'est ça? Tu construis une mosquée, stop. La mosquée, lui faut combien par mois pour vivre? 3 000 euros, tu fais à côté un projet économique qui va ramener 3 000 euros. Donc, j'ai rien à dire. Vous êtes trop fort. Allah ibarak. Allah, furhtuna. Continuez comme ça. Donc, le dernier étage pour l'argent, comme ça, on n'a plus besoin de cotisation. Et le frère, il sera content. On n'aura plus besoin de vous demander de l'argent, puisque la mosquée, elle aura de l'argent. Jazakum Allah khairan anil Islam wal Muslimin. Une fois qu'on a la mosquée, on fait quoi maintenant? Vous avez compris? Allah yebarak fik. Ami, il a de l'humour. Une fois qu'on a la mosquée, on fait quoi? On enseigne le wudu. Hayakallah, ami. Pour celui qui vient de se convertir, on va lui enseigner le wudu. Mais ceux qui font le wudu depuis. Et c'est vrai, Anna, je ne supporte pas de rentrer dans une mosquée, et l'imam, il fait une khutba et il parle de le wudu. Oh là, je supporte. C'est du foutage de gueule. Il se moque de nous. On a tous fait le wudu pour faire la prière, et que le wudu, il faut le faire comme ça. C'est de la folie, c'est du foutage de gueule. Mais que voulez-vous? C'est notre communauté, il y a de tout. On a la mosquée, on fait quoi maintenant? Vous êtes prêts? Ben, c'est évident qu'on va faire la prière, je ne vais pas vous le dire. Les cinq prières, c'est évident. Cancelez-vous. Al-Jumu'a, c'est évident, mais il y a un problème avec Al-Jumu'a. Attention, attention, ne vous trompez pas. Alors Al-Jumu'a, elle est importante. Al-Jumu'a, c'est un rendez-vous par semaine. Vous avez 500 000 personnes qui, toute la semaine, travaillent, ils sont dans la dunya. Ils arrivent à Al-Jumu'a, à une demi-heure, ils ont besoin de roh, de nourriture pour l'âme. Alors la khutba, elle doit être au niveau. Sinon, vous savez ce que font les gens pendant Al-Jumu'a? Ils dorment. N'as. Et c'est normal. Quelqu'un, il te parle et c'est pas intéressant, tu fais quoi? T'as qu'une envie, c'est de le mettre en mode pause. Non, excite. Ouais? Alors il faut trouver un bon imam. Un imam qui parle français et qui parle arabe. Vous avez compris? Parce que la majorité des jeunes ne comprennent pas l'arabe. La khutba doit se faire en français, pour nos parents, une partie en arabe. Mais elle doit se faire en français. Elle doit se faire par quelqu'un qui maîtrise la langue française, qui maîtrise la culture française. Alors, comme vous faites la mosquée, vous construisez la mosquée, vous avez intérêt de construire un imam. Vous avez intérêt de fabriquer un imam. Vous avez intérêt d'investir pour préparer l'imam qui va mettre la vie, le hayat, ruh dans la mosquée. Car la plupart des mosquées aujourd'hui se plaignent. Elles n'ont pas d'imam. La plupart des mosquées, hein. Anna, chaque fois que je m'en vais dans une mosquée, ils me disent, s'il te plaît, est-ce que tu connais un imam qui parle bien français? Parce que nos jeunes ne comprennent pas. Wallah, je ne connais pas. Et quand je le connais, il est déjà pris et ils ne lâcheront pas. Donc Allah ibarak fikoum, pensez à quoi? À construire, à fabriquer un imam. Et vous savez comment vous allez le construire et le fabriquer? Ben les enfants qui sont là, qui ont 10 ans, 15 ans, vous cherchez le plus intelligent, qui a des parents, des islamistes, ouais, des bons. Et la mosquée finance ses études religieuses. Allez, toi, tu es pour Allah, pour la mosquée, pour la da'wah. Financez-les. Il fait 5 ans d'études, il revient à la mosquée et il devient l'imam de la mosquée. Si vous ne faites pas ça, vous n'y arriverez pas. C'est très important. Qu'est-ce qu'il faut faire à la mosquée? Il faut enseigner la religion. Il faut enseigner la religion aux enfants, aux garçons et aux filles. Et là aussi, on a un problème. la majorité des mosquées, écoutez bien, et là vous allez avoir des larmes. Les enfants viennent à la mosquée à l'âge de 4 ans, 5 ans, et restent à la mosquée jusque 12, 13, 14 ans. Et après, ils disparaissent. Et malheureusement, les 10 ans qu'ils ont passés à la mosquée n'ont pas d'impact sur eux. Est-ce que vous savez qu'il y a des jeunes qui sont en prison aujourd'hui pour drogue, pour vol, pour tout ce que vous voulez, et qui connaissent 10 hizbes, 20 hizbes? Il y en a un à la prison de Maubeuge, il connaît 45 hizbes du Coran, les trois quarts du Coran par cœur. 45 hizbes. Et il est à la mosquée depuis l'âge de 3 ans, et il est en prison aujourd'hui. On dirait qu'il y a un problème avec l'enseignement de la religion à la mosquée. Alors, c'est la faute à qui? Au prof, en partie. Au programme, en partie. À la structure, en partie. Aux parents, en partie. Il faut vite, vite, faire un bilan courageux et se remettre en question et revisiter notre manière d'expliquer, d'enseigner la religion à nos enfants. Sinon, on va les perdre. Sinon, vous perdez votre temps et vous allez les perdre. Vous savez ce qu'il faut faire aussi à la mosquée? Il faut ouvrir la mosquée aux femmes 24 heures sur 24. Car une mosquée où les femmes ne sont pas présentes pour faire des activités entre femmes, où les femmes viennent à la mosquée pour apprendre le Coran, le din, où elles viennent à la mosquée pour travailler, vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez venir à la mosquée. Vos femmes vont rester à la maison, elles vont regarder quoi à la maison? Le Monseba. Et toi, t'es à la mosquée, tu fais Tarawih, et ta femme est en train de regarder 2M. Tes filles ne sont pas à la mosquée, elles sont peut-être sur Twitter et Facebook. Si la mosquée n'est pas ouverte aux femmes, s'il n'y a pas des activités à la mosquée pour les femmes, pour qu'elles restent à la mosquée, pour qu'elles trouvent du plaisir à la mosquée, pour que la mosquée les transforme, vous allez perdre vos femmes. Vous allez perdre vos filles. Et celui qui a perdu ses filles, il a tout perdu. Ah oui, elle va faire des enfants si elle en fait. Ils ne pourront pas être musulmans, les Pamskena. C'est pour ça, donner la liberté aux femmes dans la mosquée pour qu'elles travaillent pour l'islam. Et wallah que les femmes, quand elles ont la liberté d'agir dans la mosquée, elles font du très bon travail. Kherdmo, avec sincérité, avec dévotion et avec sacrifice. Je crois qu'on doit faire une pause. Hein. On fait une pause, on fait quelques rak'at. Ouais. Comme ça, tout le monde est content. Et après la pause, inshallah, si vous avez encore de la force, Anna, je suis là avec vous jusque le fajr pour le débat, parce que le plus important, c'est qu'on parle entre nous pour essayer de trouver des réponses à nos questions. Qu'Allah vous bénisse et vous protège. Jazakumullahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A tout à l'heure.